t'appelles comment ?
Je m'appelle Éloin Robin.
T'as fait un petit peu le tour ?
Bah, je suis en train de faire mon premier, alors je découvre.
Et t'as l'habitude de faire ce genre de jeu, justement ?
Non, pas beaucoup. Souvent, ce que je fais, ce sont des jeux modernes.
C'est-à-dire ?
Bah, des jeux où est-ce qu'on doit faire sa vie, avec de l'argent. Pas des jeux anciens comme celui-là.
Alors là, tu es devant un jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu peux m'expliquer un petit peu ?
Il y a trois boules, et il y a des points. Il faut tirer les boules pour essayer de marquer le plus de points possible.
Récemment, la bibliothèque Ronville, située au cœur du centre social Torchy à Arras, a inauguré une ludothèque qui est par définition un équipement culturel associatif ou public mettant à la disposition de ses membres des jouets, des jeux de société et des espaces de jeu. Elle favorise également les rencontres intergénérationnelles et les liens sociaux en toute convivialité. Beaucoup de monde était présent lors de cette inauguration et bien sûr des associations avaient installé des stands pour présenter ou faire découvrir des jeux de toutes sortes comme Pierre, membre de l'association Wellwege.
C'est des jeux anciens, alors expliquez-moi un peu quelle sorte de jeux vous proposez.
Là aujourd'hui on a ramené un peu une sélection de jeux traditionnels de la région, un peu le type de jeu qu'on peut retrouver dans les estaminets, en plus du côté Flandre maritime. Mais bon, à l'époque où existaient ces jeux, la Flandre venait même jusqu'à Arras. Donc voilà, on a ramené tout un type de jeux qui sont principalement des jeux d'adresse. Et à côté de ça, on a aussi amené toute une série de casse-têtes qui là sont d'origine très très variée. Ça va de l'Asie au Pays de l'Est, voilà.
Donc oui, bah, j'imagine que ces jeux ont une histoire. Vous pourriez peut-être, vous avez une anecdote concernant un jeu précis ?
Bah oui, notamment on a un jeu qui s'appelle un billard japonais et qui n'a absolument rien de japonais vu qu'il a été créé, il est présent principalement en France et en Angleterre, mais il a été appelé japonais parce que en fait il faut être très zen pour jouer. Donc il a pris le nom de billard japonais mais il n'a absolument rien de japonais.
Quel type de public se tourne vers ces jeux ?
Alors le public, c'est ce qu'il y a de sympa avec ces jeux-là, c'est que ça marche avec tout le monde. Ça peut être les enfants, les adultes, les grands-parents, tout le monde peut s'y retrouver. Et en fait, d'une part, il y a d'abord la curiosité effectivement qui joue, ce sont des pièces qui intriguent au départ. Et puis après, on se prend assez facilement au jeu. Et comme c'est des jeux aussi qui sont simples d'approche, on ne demande pas beaucoup d'efforts pour rentrer dedans. Et c'est une bonne entrée en matière pour faire découvrir les jeux aux gens, pour rentrer dans l'univers du jeu.
Ces jeux-là, ils sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils vont rester ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver ? Est-ce que vous allez participer de manière assidue à cette ludothèque ?
Pour l'instant, c'est un one-shot, on va dire. On vient pour l'inauguration. Après, on a pas mal discuté avec les gens de la ludothèque qui sont relativement, a priori, intéressés pour acquérir des jeux d'adresse, des jeux traditionnels. Donc, pourquoi pas un futur partenariat ? Oui, nous, on est ouverts, en tout cas.
Vous faites partie d'une association. Est-ce que vous avez un lieu, justement, où on peut venir jouer souvent à ces jeux anciens ? Est-ce qu'il y a des concours ?
Alors nous en fait donc notre association est basée à Lille. On a sur Lille qu'un local qui nous permet de stocker des bureaux. Mais par contre on a ouvert un musée des jeux traditionnels qui se trouve à Lonne Plage à côté de entre Gravelines et Dunkerque. Et donc là par contre on a vraiment une partie exposition avec vraiment des belles pièces, toutes les anciennes pièces qui sont collectées depuis une quinzaine d'années par l'association. Et après au rez-de-chaussée on a une salle qui fait à peu près 200 mètres carrés qui est remplie de jeux pour que les gens puissent aussi jouer. Parce que faire un musée sur le jeu où on peut pas jouer, ça n'aurait aucun sens. Voilà.
Et vous avez un site internet où on peut vous contacter éventuellement pour savoir un peu quel jeu vous proposez ?
Oui tout à fait, alors http://www.wellwege.com.
Toute ludothèque qui se respecte a un maître de cérémonie, le ludothécaire ou l'animateur qui assure la mise en place des espaces de jeu et le conseil pour les prêts. Il facilite l'entrée en jeu et les échanges entre participants autour des objets de jeu et des règles du jeu. Cyril Leroy a hérité de ce rôle, il nous explique comment est née l'idée de créer la ludothèque, son fonctionnement ainsi que tous les jeux qu'on pourra y trouver.
La ludothèque a ouvert donc après un gros travail mené par l'équipe autour d'une réflexion qui était comment amener un nouveau média sur la bibliothèque. Ben, le jeu s'est vite dégagé au regard du passif qu'il y avait autour de la réflexion menée par le Conseil Jeune il y a quelques années sur ce qu'aurait pu être une ludothèque sur Arras. Donc le projet a été est ressorti, on va dire, des cartons, a été réfléchi, pensé pour pouvoir convenir au maximum aux attentes du public et des lecteurs qu'on espérait voir devenir des futurs joueurs.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est qu'une ludothèque, expliquez-moi un petit peu le principe.
Alors la ludothèque, c'est un lieu de convivialité et de partage où le jeu permet de prendre le maximum de plaisir. Donc c'est un espace qui est dédié à toute tranche d'âge. Donc sur la ludothèque, on a la chance, j'ai envie de dire, d'avoir tout type de jeu. On va se situer sur du jeu pour la petite enfance, donc les 0-18 mois, donc ce sont des jeux d'exercice. On a un espace qui leur est dédié, un espace clos, avec des hochets, des cubes empilés, vraiment tout type de compétences qui peut être mis en avant à partir de cet âge. Ensuite, on a des espaces symboliques, donc au-delà de 18 mois, qui peuvent être investis par des enfants jusqu'à 12 ans. Donc c'est des espaces où on revit le quotidien, où ça monte des histoires, il y a un château fort, un espace avec une dinette, une nursery, un petit établi, une voiture, garage. Donc on est vraiment dans le pur symbolique. Et puis après, on a la chance d'avoir un espace qui est dédié au jeu de règles, donc le jeu plateau, jeu société plus communément appelé. On est sur des jeux à partir de 2 ans, donc les tout premiers jeux de société, jusqu'aux jeux adultes. On se met vraiment un point d'honneur à ce que toutes les générations puissent se retrouver et trouver plaisir sur toute gamme de jeux. Jeux d'ambiance, jeux de stratégie, de réflexion, des jeux coopératifs, et on a même des jeux anciens. Et la petite touche supplémentaire, c'est qu'on a réussi à introduire le jeu vidéo dans la ludothèque, avec un espace qui plaît plutôt bien, y compris aux adultes et aux parents. Voilà, enfin, je pense qu'on a pu couvrir tout ce qu'est le jeu. Et la journée d'aujourd'hui montre l'intérêt réel que peuvent avoir les habitants du quartier et les Arageois sur le nouveau média qu'on leur propose.
Alors du tout internet, du jeu vidéo, des jeux en ligne, etc. Est-ce que c'est encore difficile quand même d'amener les jeunes maintenant à jouer à des jeux dits de société ou alors des jeux plutôt coopératifs ou en collectivité ?
Alors la difficulté est en effet présente, mais l'idée c'est dans l'échange de pouvoir cerner quels sont les jeux coup de cœur qu'ils ont pu avoir dans leur enfance. Les jeux qui leur parlent le plus. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, si on arrive à cerner quelle est la thématique de jeu ou le jeu avec lequel l'enfant va être à l'aise, on arrive tout doucement à le réintroduire sur le jeu de société et progressivement à lui redonner le plaisir à se retrouver, à lancer des dés, battre des cartes et tout simplement à avancer sur un plateau avec d'autres joueurs, que ce soit dans le coopératif, le semi-coopératif ou même le compétitif qui peut être aussi très valorisant.
Apparemment, on peut aussi emprunter des jeux. Donc comment ça marche cette participation ?
Alors dès le moment où on est adhérent de la bibliothèque et qu'on adhère au règlement de fonctionnement de la ludothèque, on va pouvoir emprunter 2 jeux de société sur une période de 14 jours. Donc on a réfléchi autour de la durée du nombre de jeux. On pense que c'est plutôt un équilibre raisonnable qui permet de passer plusieurs soirées autour d'un jeu, de le faire découvrir et aussi peut-être d'emprunter un jeu qui joue un ou deux pour pouvoir solliciter juste un ou deux membres de la famille. On sait que c'est pas toujours évident de se retrouver autour d'un jeu de société, que parfois les règles font un peu peur. Après, il y a un travail en amont que l'équipe et moi-même faisons pour rassurer les joueurs sur les nouveautés qu'on leur propose.
Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté un jeu qui sort du lot et où il y a un public qui est assez assidu ?
Alors on est beaucoup pour l'instant sur des gros classiques. Hein. Donc là on peut voir des personnes, on va dire, d'un certain âge ressortir le Rumi, prendre beaucoup de plaisir dans ce jeu de séquence autour des chiffres, le Scrabble, hein. Les enfants qui reprennent des jeux tels que le Labyrinthe. Hein. Et en fait tout le travail aujourd'hui c'est de réussir à glisser vers d'autres choses. Donc là on a pu amener le Blocus comme une nouvelle référence, un jeu de stratégie plutôt intéressant, les Aventuriers du Rail, donc là on est sur du jeu de société contemporain, et aussi donc une gamme de jeux coopératifs qui tout doucement amène les joueurs à se rencontrer, à se retrouver sur un support qui est tout à fait nouveau, où là on ne gagne pas seul, mais on gagne bel et bien en équipe. Donc sur les jeux coopératifs, en tout cas on a une grande variété de jeux où les joueurs prennent un plaisir fou. De toute façon, on a pu travailler avec le centre social la semaine dernière sur une soirée. Ça a été des fous rires en permanence sur des jeux que les joueurs ne connaissaient pas du tout, où au départ il y avait des a priori parce que le support est assez décontenançant, c'est des mécaniques de jeu vraiment innovantes. Et je crois que ça fait plaisir et ça montre toute la richesse du jeu. On redécouvre un média sous une nouvelle forme qui au final sort des sentiers battus. On n'est plus que sur un dé qui roule, mais bien sur des choses totalement innovantes.
Thank you. Évidemment, la ludothèque va cohabiter avec la médiathèque. La ludothèque, ça fait un petit peu plus de bruit. Comment ça va marcher, cette cohabitation? Vous avez des horaires précis? Il y aura des moments où on ne pourra pas être plutôt en ludothèque, mais plutôt en médiathèque et vice-versa?
Alors, la réflexion a été menée autour de cela. Donc, le seul espace qui soit intégré à la bibliothèque, donc physiquement, c'est l'espace de jeu symbolique. Donc, ce sont les enfants qui sont dans du jeu d'imitation. C'est un jeu qui n'est pas bruyant. Quand l'enfant reproduit les scènes du quotidien ou joue aux voitures, au-delà du petit broum-broum qu'on peut entendre, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'effusion de joie. Et donc, comme on a cette salle qui se retrouve autour du jeu de société, du jeu de règles, on a un espace semi-clos qui permet donc de jouer avec un certain confort. On peut y rire, on peut discuter à haute voix sans que cela gêne du tout la cohabitation avec les lecteurs de la bibliothèque. Après, on a aussi la chance d'avoir énormément de lecteurs qui se sont retrouvés bénévoles pour nous donner un coup de main et faire émerger la ludothèque. Donc il y a une certaine tolérance autour du jeu qui s'est posée. Et ayant été en situation de joueur, on va dire que les exigences sont un peu moins portées sur un petit peu de bruit. Après, on est aussi vigilant sur le fait de ne pas mettre tel ou tel support qui peut être contraignant lorsqu'on veut se concentrer sur une lecture.
En ce qui concerne les jeux, donc, je suppose que vous allez peut-être aussi organiser des actions, des journées spéciales, des concours peut-être?
Pour l'instant, on a dégagé nous trois temps. Donc un temps qui se tient le jeudi matin, qu'on a baptisé Petit Lude. Donc c'est un espace qui est dédié aux 0-3 ans. Donc là, ce temps-là leur est réservé avec les espaces symboliques qui leur sont proposés, mais également des petits jeux de société. Et on est en cours de réflexion sur la mise en place de jeux autour des parcours moteurs. Donc on va occuper un nouvel espace au sein de la ludothèque ou tout simplement du centre social pour proposer une richesse ludique supplémentaire. Ensuite, on a le vendredi après-midi de 16h à 18h, la du Lude. Donc là, j'ai envie de dire, égoïstement, c'est le temps que je préfère. Je cherche vraiment à démystifier l'image enfantine du jeu auprès des adultes. Et donc sur ce temps, je me rends disponible au maximum auprès des adultes pour rechanger, modifier leur regard sur ce qu'est le jeu. Et là, proposer vraiment des jeux très percutants où on sent que, voilà, c'est pas à 6 ans qu'on peut réussir ce genre de jeu, ni à 12. On doit savoir réfléchir, se poser, se concentrer. Et avec des thématiques qui sont, j'ai envie de dire, un peu plus nobles, un peu plus réfléchies, et qui donne tout son sens au jeu en tant que jeu pour adultes. Et ensuite, on a donc le Family Lude le samedi après-midi de 14h à 17h. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux familles de se retrouver. Alors quand j'entends famille, ce sont les familles entre familles, donc famille A, famille B, si je peux parler ainsi. Mais après, c'est aussi au sein d'une même famille, proposer un jeu qui puisse faire sens à un enfant qui est 4 ans, un autre qui en est 7 et un autre qui en est 12, et que les parents puissent se mettre en situation de joueur avec eux et que le plaisir soit partagé par tous. Et c'est un temps en fait où l'intergénérationnalité va vraiment s'exprimer parce qu'on accueille beaucoup de familles. On a une après-midi où 38 familles sont passées jouer sur place, en plus des autres joueurs. Donc il s'est passé des tas de choses. C'était vraiment sympathique de voir des parents s'intéresser aux jeux d'autres enfants, des enfants se mettre en relation avec d'autres enfants qui ne connaissent pas automatiquement. Et enfin, on a deux temps dédiés donc aux jeux vidéo. Et c'est aussi des espaces qui ont été assez intéressants dans le sens où on a des familles qui ont une réticence par rapport aux jeux vidéo, donc il n'y a pas de console chez eux. Et là, c'est s'autoriser à vivre ce qu'on ne vit pas habituellement à la maison et découvrir que le support a aussi un avantage, on va dire, en termes de plaisir, mais aussi de gains en termes de compétences, de se retrouver dans des acquis qu'on n'a pas automatiquement mis en avant à travers des jeux de société traditionnels. Je pense que le jeu vidéo, lorsqu'il est bien exploité, lorsqu'il est entre guillemets bien sous contrôle, permet de faire des tas de choses et aussi de se mettre en relation, contrairement à ce qu'on a souvent tendance à décrier.
J'imagine aussi, au travers de ce que vous m'avez dit, que vous mettiez en avant plutôt les jeux créatifs, mais est-ce qu'on y retrouvera également les jeux comme le Monopoly, qui est un peu le jeu un peu capitaliste de base?
Alors non, vous ne retrouverez pas de Monopoly. On a fait un choix un peu éthique qui est de bannir ce genre de jeu. Alors bannir, c'est un bien grand mot parce que finalement on a d'autres types de jeux qui vont faire appel à la même mécanique de jeu où on doit entre guillemets s'enrichir, voilà. Mais par contre on est sur des jeux quand même un peu plus riches où il y a des notions de coopération derrière. On n'est pas là pour écraser l'adversaire, mais plutôt on a une réflexion autour de ce que peut être l'économie. Enfin, on est sur des choses quand même qui ont plus de sens, plus poussées et plus intéressantes. Même en termes de gameplay, de côté ludique, on n'est pas. Enfin, le Monopoly, c'est qu'un jeu de loi où on amasse de l'argent, quoi. Donc on cherche à montrer que le jeu, c'est autre chose que ça. Donc vraiment à diversifier au maximum les réponses en termes de jeu pour que, une nouvelle fois, tout le monde s'y retrouve.
Les enfants et les grands ont découvert certains jeux qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais qu'ils se sont appropriés sans effort, comme Quentin et Alexis, qui nous livrent leurs impressions, ainsi qu'Arlette. Tous insistent sur la convivialité et la mixité des générations.
Vous êtes ici à la ludothèque, vous avez l'habitude de venir apparemment.
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous y faites exactement?
Bah on joue, bah des fois le monsieur installe des jeux, plein de choses, puis s'éclate.
Et toi?
Bah on joue, après il y a des petits, quand je suis venue il y avait des petits, je jouais avec les petits et tout.
Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans justement?
Bah on peut partager, c'est...
Les petits sont rigolos. On apprend à jouer les règles du jeu, et voilà.
Et donc vous, j'imagine que vous jouez aussi à des jeux chez vous. Et à quel genre de jeu?
Bah moi c'est plus ma Game Boy en fait.
Et toi?
Moi plus la Play.
Mais ici, il n'y a pas que des jeux vidéo, donc est-ce que ça vous intéresse vraiment d'aller découvrir d'autres jeux?
Bah moi sincèrement je préfère les jeux vidéo parce que quand même, mais sinon c'est bien aussi, on s'éclate.
Après on se sent plaisir, par exemple il y en a qui ne sait pas jouer, après on les apprend à jouer.
Un jeu que vous avez découvert ici, qui vous a le plus plu, que vous n'y avez jamais joué?
Le labyrinthe.
Alors le labyrinthe.
Le jeu de train, bah, le jeu là qu'on a joué avec les monstres et le royaume des châteaux.
Alors tu me parlais du labyrinthe, comment ça marche? Explique-moi un petit peu les règles du jeu.
En fait on a des pions, on a une carte, après par exemple on doit y aller au trésor, et si par exemple on a un chemin bloqué, on prend un pion, hop, après on bouge, après notre adversaire il prend en fait le pion que j'ai enlevé.
Et toi alors, t'as réfléchi un petit peu?
C'était labyrinthe aussi parce qu'il est bien en fait. Je vais reprendre ce qu'il a dit, enfin, c'est collectif, déjà tu peux jouer tout seul et tu peux jouer à plusieurs jusqu'à 6, c'est bien.
Ok, bah je vous remercie. Arlette, expliquez-moi un peu ce que vous êtes en train de faire.
On est en train de jouer au Rumi, on dit encore Rumi Cube, quelquefois Rumi Cube. Alors c'est un jeu avec des chiffres, des nombres plutôt, je voudrais dire des nombres, puisque ça va de 1 à 13. Il y a 4 couleurs et il faut faire des assemblages, soit de couleurs, soit de nombres qui se suivent de la même couleur, voilà.
Quel intérêt vous y trouvez-vous?
Ah bon, on s'amuse bien avec ça, mais je vous dis, moi tous les gens que je connais qui ont commencé à jouer à ça, après ils sont accros et ils n'arrêtent pas.
On termine ce sujet avec l'un des membres d'une association de jeux de rôle, les Aventuriers Oniriques, qui étaient venus présenter leur association au public. Ils nous expliquent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les jeux de rôle.
Arnaud Proyard, donc adhérent des Aventuriers Oniriques.
Qu'est-ce que ça veut dire justement les Aventuriers Oniriques? Expliquez-moi un peu.
Alors les Aventuriers Oniriques sont nés de plusieurs personnes qui pratiquaient le jeu de société et principalement le jeu de rôle. Donc nés dans une boutique qui était à Arras à une époque. La boutique n'existe plus, mais les Aventuriers existent toujours et on pratique notre loisir sur Arras, l'office culturel principalement. Alors en fin de compte, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une bande de potes ou de joueurs qui viennent s'asseoir à une table. Et là, il y a une personne qui sera désignée ou qui est ce qu'on appelle le meneur de jeu. Alors le meneur de jeu, qu'est-ce qu'il est lui principalement par rapport au jeu lui-même? Il va être considéré comme un scénariste, un metteur en scène. C'est lui qui va décrire l'univers, le jeu, d'un point de vue de règles. De là, les autres joueurs, eux, par rapport au monde dans lequel ils vont évoluer, et les règles qu'ils ont en leur possession, ils vont créer un personnage sur une fiche de perso avec lequel ils vont évoluer dans cet univers. Avec cet univers-là, ils vont pouvoir interagir avec des dés, avec la parole, suivant ce que le meneur de jeu lui va dire. Donc le meneur de jeu lui a posé son histoire comme un vrai scénariste, comme un vrai metteur en scène. et les joueurs qui sont autour vont pouvoir intervenir, interagir grâce soit à leur personnage, soit à leurs compétences qu'ils ont, soit aux affinités qu'ils ont par rapport à l'univers, et le jeu se déroule comme ça au fur et à mesure. Le jeu de rôle est ouvert à tout le monde. Principalement, moi, je le conseille franchement à partir de 15-16 ans, qui est vraiment là où on peut vraiment comprendre les mécanismes de règles, parce qu'il y a des règles qui sont assez pointues. Sinon, dans tout assaut de jeu de rôle, même dans la nôtre, il n'y a pas besoin d'être pote pour jouer. Le nouveau venu va être ce qu'on va dire intégré à l'assaut. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les novices qui, eux, ont déjà pratiqué le jeu de rôle et qui, pour des raisons ou autres, ont arrêté, ils voudraient bien en refaire. Donc là, c'est vrai que pour eux, c'est plus facile à s'intégrer sur une table de jeu de rôle. Et on ouvre généralement plus de tables quand il y a plus de personnes qui sont là pour pratiquer le jeu en lui-même.
Alors donc, le jeu de rôle aussi, il y a une particularité, c'est que ce sont des jeux qui peuvent durer très très longtemps.
Alors oui, le jeu de rôle, lui, peut durer très longtemps. Minimum, on va dire, c'est 4 heures. Une séance peut durer 4 heures. Et des fois, peuvent durer jusqu'à 6-8 heures de jeu. Mais quand on est dans le jeu, on voit pas le temps passer. Hein. C'est aussi au meneur de jeu de donner le ton, pour que ça aille plus vite, pour que ça aille moins vite. Et de façon aussi à bien donner l'image du jeu, ce qui permet aussi de bien, d'avoir une petite immersion dans le jeu et de ne pas voir le temps passer.
Vous êtes ici pour l'inauguration de la ludothèque, mais je suppose que les jeux de rôle vont intégrer aussi la ludothèque. Il y en aura ici régulièrement.
J'ai vu avec Cyril, on en a un petit peu discuté, et donc là on va bien voir la suite justement, ce qu'il en sera.
Parce que du coup, comme ça peut durer longtemps, et comme la ludothèque et la médiathèque ont des horaires bien précis, comment ça va marcher? On peut remettre une partie au lendemain ou au surlendemain?
Alors oui, on peut remettre des parties au lendemain, ça c'est ce qu'on appelle généralement des parties suivies ou des parties en campagne, qui sont des parties qui peuvent durer entre 4 heures, 5 heures. On va pouvoir stopper le jeu et reprendre là où on s'est arrêté. Et ça, c'est le travail aussi du meneur de jeu, de dire bon, là, on stoppe là, parce que là, c'est un bon moment du scénario où on peut stopper, puis de reprendre la séance d'après.
Alors, il y a des rumeurs qui courent, comme quoi les jeux de rôle, ça leur monte vraiment au cerveau et ils pètent des câbles, c'est-à-dire qu'ils se prennent vraiment pour les personnages. Est-ce que le meneur de jeu ou les modérateurs, on va dire, servent aussi de psychologue pour faire justement la différence, essayer de que le jeu se passe bien et qu'il n'y ait pas de pétage de câble en route?
Alors le pétage de câble, c'est une grande légende. On va dire que c'est une grande légende. Pour nous qui sommes rôlistes et joueurs de jeux de rôle, ceux qui sont aussi meneurs, on a pris l'habitude de jouer avec des gens avec qui on a vraiment déjà travaillé lors de l'intégration dans l'association. C'est-à-dire que personne n'est accepté dans l'association si on voit qu'il y a un problème quelque part.
D'accord. Voilà. Et une question aussi qui vient à l'esprit, est-ce que le jeu de rôle se rapproche un peu aussi du jeu vidéo, par exemple, au niveau des personnages, c'est quand même un visuel assez, assez identique ?
Assez identique, oui, parce que les univers sont très proches, que ce soit de la fantasy, que ce soit du cyberpunk, que ce soit de la SF ou même du medfan. Les univers sont très identiques, très riches. On peut partir sur des univers qui sont très à la mode, comme le vampire ou le zombie, qui sont des univers très à la mode, ou des univers comme celui de Tolkien, celui du Hobbit, ou même partir après sur d'autres jeux qui sont aussi historiques, comme Keltia et d'autres jeux dans ce genre. Donc moi je dirais oui, ils sont similaires, sauf que le jeu est différent. Le jeu est différent, on n'est pas là devant un écran sans discuter avec personne. On est quand même avec d'autres personnes avec qui on peut discuter et avoir des avis.
En fait, oui, vous me disiez tout à l'heure que le scénario, c'est le meneur de jeu qui le décide, tandis qu'un jeu vidéo, finalement, le scénario, il est déjà écrit.
Oui, le scénario est déjà écrit, et puis l'univers est déjà posé, tandis que là, sur une table, le scénariste, donc le meneur de jeu, lui, va décrire son univers, et après, ce sera à chaque joueur de l'interpréter de la façon dont il l'entend par rapport au meneur de jeu.
1, 2, 3, 4...
c'était un sujet sur l'inauguration de la ludothèque Ronville au centre social Torchy d'Arras. Si vous désirez plus d'infos sur les horaires d'ouverture, rendez-vous sur le site de la ville d'Arras, www.arras.fr.